Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'affaire Omar Radad, du nom de ce jardinier marocain accusé puis condamné par la justice pour le meurtre de Guylaine Marshall en 1991, près de Cannes. Cette histoire, c'est celle d'un meurtre encore mystérieux 23 ans après les faits. Dans le rôle de l'assassin désigné, un jeune Marocain confondu par une inscription de sang qu'aurait laissé sa victime. Arrêté et jugé coupable sans aucune preuve matérielle, il sera condamné uniquement sur la foi de l'intime conviction. Résultat, 7 ans de prison. Et pourtant, toute l'enquête ne se sera déroulée que sous le signe du doute et donc du malaise. Doute sur le mobile du meurtre, sur l'alibi de l'accusé et finalement sur l'ensemble des éléments à charge comme à décharge. Aujourd'hui, Omar Radad est libre. Celui qu'on a accusé hier a été partiellement gracié, mais pas innocenté par la justice. Cette même justice à qui il ne cesse de réclamer depuis bientôt plus de 10 ans la révision de son procès pour qu'enfin la vérité éclate. Alors, que s'est-il passé en cette journée du 23 juin 1991 à Mougins? Et pourquoi aujourd'hui la justice ne veut-elle pas réviser le procès d'Omar Radad, au-delà du fait qu'elle répugne toujours à revenir sur les jugements prononcés, synonymes pour elle de désaveu? Pour en parler, nous recevrons l'avocate Sylvie Noakovitch. C'est elle qui défend désormais Omar Radad depuis 6 ans. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Léa Dupouy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Lupin, réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier, Martin Guénard.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Dans l'après-midi du 24 juin 1991, des habitants de la petite ville de Mougins, près de Cannes, alertent leur médecin. L'une de leurs voisines, une veuve sexagénaire, bien connue dans son quartier, ne donne plus de nouvelles depuis plus de 24 heures, alors qu'elle était censée se joindre à eux, la veille, pour déjeuner. Face à leur inquiétude, le médecin de la ville se rend sur place. Il trouve porte close et prévient à son tour les gendarmes. Vers 19h, ceux-ci se rendent au domicile de la vieille dame. Après une dizaine de minutes de voiture, ils arrivent sur les hauteurs de la ville, quartier des luxueuses propriétés, à l'adresse indiquée, celle de la villa La Chamade. Une fois sur place, ils se retrouvent devant des grilles fermées. Les gendarmes décident tout de même d'entrer dans la propriété. Ils inspectent la maison, les alentours de la piscine, puis le jardin. Tout est calme et désert, aucune trace d'effraction. L'alarme de la villa n'est même pas branchée. Mais aucun signe de la propriétaire. L'un des gendarmes tente alors d'entrer dans la cave au sous-sol d'une annexe accolée à la villa, une cave dont la porte semble bloquée de l'intérieur. Après 20 minutes d'efforts, ils forcent enfin le dispositif et pénètrent dans cet espace clos et obscur. Ils actionnent l'interrupteur électrique et là, ils aperçoivent un lit pliant métallique, puis des traces de sang sur le sol, traces qui les mènent tout droit à la chaufferie. Quelques pas plus loin, ils découvrent le corps sans vie d'une femme à terre. Cette femme, c'est Guylaine Marshall, la propriétaire. Vêtue d'un seul peignoir, allongée face contre le sol, le crâne fracassé, la gorge entaillée, un doigt sectionné, le corps transpercé par ce qui semble être plusieurs coups assénés avec un objet tranchant. À ce tableau s'ajoute, quelques mètres plus loin, sur la porte de la cave, à 20, une inscription que semble à première vue avoir écrite la victime avec son propre sang. 4 mots en lettres capitales, Omar m'a tué. L'information fait vite le tour des rédactions. On parle alors d'un crime odieux, d'un crime mystérieux. 2 jours plus tard, l'événement fait la une.
Omar m'a tué. C'est par ces mots tracés en lettres de sang sur les murs d'une villa de Mougins que commence le mystère du meurtre d'une riche héritière. Ghislaine Marshall était la veuve de l'un des créateurs de la célèbre marque de phares et de bougies automobiles. Elle a été tuée dans son mât provençal où elle vivait seule. Mais avant de mourir, elle a fourni une piste sérieuse aux policiers.
Cette piste, c'est le nom inscrit de façon très lisible sur le mur de la cave à vin que les enquêteurs ont découvert en entrant. Ce fait est étonnant, car une autre inscription similaire, mais inachevée, est retrouvée à côté du bras de Ghislaine Marshall dans la cave « Omar m'a T. 3 petits points ». C'est donc la deuxième inscription. Encore plus troublant est la faute d'orthographe au mot « tuer » sur la première inscription, orthographiée à l'infinitif « er » plutôt qu'au participe passé. Cette inscription en lettres de sang va être au cœur de toute l'affaire, la faute d'accord la plus célèbre de la chronique judiciaire.
Le corps de Ghislaine Marchal se trouvait dans la chaufferie, baignant dans une mare de sang. Frappée de plusieurs coups de couteau, elle a réussi avant de mourir à désigner son assassin en traçant son nom sur le mur.
Omar m'a tué.
Omar m'a tué.
Omar m'a tué.
Sur le mur, une phrase est écrite en lettres de sang.
En lettres de sang.
Omar m'a tué.
Omar m'a tué.
Omar m'a tué.
ER. ER. ER.
L'enquête commence très vite et logiquement par l'audition des premiers témoins, les voisins, ceux qui ont alerté les gendarmes. On va alors découvrir qu'un nommé Omar a travaillé la veille dans la propriété contiguë à celle de Ghislaine Marchal. Ce même Omar qui fait des heures de temps à autre pour la victime. Dès lors, les enquêteurs ne vont plus se focaliser que sur une seule piste, celle d'Omar le jardinier. Seulement pour Francine Pascal, qui l'avait présentée à Madame Marchal et qui l'a vu travailler la veille dans le jardin, toute cette histoire ne tient pas la route.
Travaillait chez moi ici, il était là, il a coupé des choses là, il a changé des choses là, il s'est occupé des... Et après il est venu arroser partout parce que c'était sec et voilà. Je ne l'ai pas vu partir. Il est parti à 5 heures, mais je ne sais pas s'il s'est absenté une demi-heure, mais je ne crois pas parce que nous étions là. Nous, on faisait le soleil, mon gendre était de l'autre côté. On n'a pas vu partir et il n'est sûrement pas parti avec sa moto parce qu'il y a, on a interviewé un type qui était à côté, il a demandé s'il y avait une moto qui était venue, alors il n'y est pas allé avec sa moto, donc c'est à pied peut-être, mais je vois pas du tout pourquoi il y aurait été et pour l'égorger ça paraît une histoire invraisemblable.
D'autant plus invraisemblable que le jeune Omar est apprécié de tous dans le quartier, on vante son sérieux à la tâche. Au moment des faits, Omar Radad a 29 ans. Immigré marocain, il est arrivé en France 5 ans plus tôt. Son père Abdoul lui a transmis son emploi de jardinier qu'il occupait depuis 30 ans chez Francine Pascal, la voisine de Ghislaine Marchal. Omar a quitté l'école très tôt, vers 7 ou 8 ans. Aussi, il ne maîtrise pas complètement la langue française. Un point faible qui se retournera contre lui lors de l'enquête. Une enquête qui, au soir de la découverte du corps de la victime, Ghislaine Marchal, se concentre très vite sur la piste du petit jardinier modeste et discret. Car il faut aller vite. Certes, Ghislaine Marchal n'est pas l'une des plus grandes fortunes de la Côte d'Azur. Mais veuve de Jean-Pierre Marchal, un grand industriel, elle possède un train de vie très confortable et une très belle villa, la Chamade. Les gendarmes s'orientent très vite vers le crime crapuleux. Ghislaine Marchal, Omar Radad, une équation à deux inconnus. Le lendemain, les enquêteurs se rendent à Toulon où ils interpellent le jeune jardinier. Les gendarmes décriront plus tard avoir arrêté un homme stoïque et presque hébété, Omar Radad. Lors de son premier interrogatoire, dans un français approximatif, il explique qu'il était à Toulon la journée du lundi 24 juin avec sa famille. Le dimanche 23, il s'est effectivement rendu chez Francine Pascal pour faire ses heures de travail. Placé en garde à vue, il nie être l'auteur du crime. Le domicile du couple Radad, un petit appartement au Canet, perquisitionné. Les vêtements du jardinier, non lavés, sont saisis et analysés. On ne retrouvera aucune trace de sang. Dans le même temps, les voisins de la défunte doutent de la théorie des gendarmes qui ont fait d'Omar le coupable, déjà, oui, dans cette affaire.
Quelques personnes se posent des questions et tout le monde, malgré tout, continue à le persuader innocent.
Merci.
Alors, je ne sais pas combien de temps vont durer les analyses. Mais enfin, là, un gosse, vraiment, il n'a rien fait, c'est mon avis. Je vois pas ce qu'ils font encore en cabane.
Et Omar, calmement, nie toujours être allé au fond du chemin chez Madame Marchal. Car ce jour-là, dit-il, il travaillait chez une voisine à 300 mètres, Madame Pascal, qui a confirmé. Vers midi, il serait parti en mobylette, avec arrêt dans une des boulangeries de Val-de-Mougins, mais pas de souvenir. Quelques kilomètres, au moins 10 minutes, vers le Canet, où il habite, sa femme et dans la famille. Près de son immeuble, dit-il, il a croisé quelques personnes. Pas de confirmation. Déjeuner puis retour, et là, une preuve, j'ai téléphoné, dit-il, chez ma belle-mère. Et les télécoms ont bien retrouvé l'appel à 12h51. 51 minutes, l'alibi s'est resserré, mais alors qui d'autre a pu entrer ? La villa avait des alarmes, mais était-elle branchée ce jour-là ? Pas de traces à midi, malgré le bip que Madame Marchal n'a jamais utilisé. L'énigme du 23 juin n'annonce pas encore de fin.
L'emploi du temps d'Omar, un alibi jugé trop faible par les enquêteurs. Parallèlement, une hypothèse circule selon laquelle, quelques jours plus tôt, le jardinier se serait disputé avec la défunte à propos d'une avance de salaire que celle-ci lui aurait refusée. Ajoutons à cela le fait qu'il soit marocain et puisse tenter de quitter la France. Il n'en faut pas plus pour que le magistrat décide, à l'issue de la garde à vue, d'inculper le jardinier le 27 juin 1991 pour homicide volontaire. Le même jour, Omar Radal est incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse. Fait étonnant, alors que l'enquête n'est pas terminée, 9 jours après sa mort, Guylaine Marchal est incinérée. Il ne sera dès lors plus possible d'effectuer sur elle aucune expertise. Pendant ce temps, la défense d'Omar s'organise. Francine Pascal, la voisine qui croit farouchement à l'innocence du jardinier, lui a trouvé un avocat. Elle est même prête à prendre en charge ses honoraires. Le 3 août, les experts rendent leurs conclusions après l'analyse graphologique sur l'inscription de sang Omar m'a tué. Ils sont formels, c'est bien la défunte qui a écrit ce sinistre message durant son agonie et avec son propre sang. C'est sur cet élément que va reposer entièrement le dossier d'instruction à charge contre Omar Radad. Un élément sur lequel certains journalistes vont commencer à émettre des doutes. Comment est-il possible que dans le noir absolu, Guylaine Marchal, mourante, ait pu écrire aussi lisiblement cette inscription, qui plus est avec des caractères bien espacés? Et pourquoi cette faute de grammaire, l'une des plus grossières qu'on puisse commettre? La confusion entre l'infinitif et le participe passé, qu'on croise souvent d'ailleurs, mais tout de même.
Omar m'a tué.
Omar m'a tué.
Omar m'a tué.
Sur le mur, une phrase est écrite en lettres de sang.
En lettres de sang.
Omar m'a tué.
Omar m'a tué.
Omar m'a tué.
ER. ER.
Au printemps 1993, 2 ans après les faits, malgré les doutes qui continuent d'entourer l'enquête, l'instruction est close. En prison, depuis ce temps, Omar Radad crie toujours son innocence et son angoisse, car il doit comprendre qu'il est présumé coupable, pas présumé innocent comme le voudrait l'esprit de la loi. Les avocats du jardinier ont beau demander un non-lieu pour absence de preuves et pour les erreurs commises par les gendarmes durant la procédure. Rien, non, rien n'y fait. Pour le juge, le dossier est fourni, assez fourni pour justifier l'incarcération. Prochaine étape, le tribunal. Le 24 janvier 1994, le procès du meurtre de Guylaine Marchal s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Toute la presse judiciaire est là. Plus de 50 journalistes venus de toute la France. Il y a tellement de zones d'ombre. En premier lieu, l'absence de preuves contre l'accusé. Oh, bien sûr, ce n'est pas rare en cour d'assises. Mais là, c'est un cas d'école. En effet, seule l'inscription en lettres de sang sur la porte de la chaufferie et l'absence d'alibi permettent de mettre en cause Omar Radad. Un mobile bancal, pas d'arme de crime et pas de témoin. Au cours des audiences, le jeune jardinier s'exprime avec l'aide d'un interprète et bien sûr, il clame son innocence. Son avocat, Jacques Vergès, met sur le compte d'un assassin pervers les inscriptions destinées à faire accuser son client. Et il est vrai que cette hypothèse est celle qui vient à l'esprit, presque par réflexe. Un autre, ou une autre, ferait porter le chapeau du crime à Omar, quelqu'un qui le connaît forcément, puisqu'il l'appelle Omar. Dans son plaidoyer, Jacques Vergès insiste sur le changement de la date du décès de Guylaine Marchal dans le rapport des médecins légistes. Oui, d'abord il est daté du lundi 24 juin, jour où l'alibi d'Omar est recevable, justement. Il était à Toulon en famille. Or, 6 mois plus tard, les médecins rectifient, justifiant qu'une erreur de frappe s'était glissée et qu'en fait, Madame Marchal est morte le dimanche 23 juin. Comme par hasard, à cette date, Omar travaillait dans la propriété voisine de la Chamade et là, son alibi ne tient plus. Pour l'accusation, Omar Radad avait des dettes de jeu. Il aurait donc tenté de voler la victime avant de la tuer. 1 mois après l'ouverture de l'audience, le jury délibère. Nous sommes le 21 février 1994. C'est en soirée que tombe le verdict.
France Inter.
Le jury l'a donc condamné sans R. Verdict aux assises des Alpes-Maritimes. 18 ans de réclusion criminelle pour Omar Radad, reconnu coupable du meurtre de sa riche patronne, Guylaine Marchal. Verdict rendu après 7 heures de délibération. Mathieu Aron.
Omar Radad, coupable. À l'énoncé de ce verdict, la femme du jardinier marocain s'effondre en larmes. Un peu plus tard, elle sera évacuée dans une ambulance du SAMU. Lui est calme, il se fait traduire la peine. 18 ans de réclusion criminelle, il devient livide. Dehors, la foule, 200, 300 personnes, de nombreux Marocains, ils ont attendu pendant les 7 heures qu'a duré le délibéré. C'est la déception et la colère, les cris « Omar, innocent ».
À la sortie de la salle d'audience, Jacques Vergès, le défenseur d'Omar Radad, s'indigne.
Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin.
Pour Omar Radad, c'est retour en prison, et cette fois à Muret, près de Toulouse. Il y restera près de 4 ans. Et malgré les nouveaux éléments que vont apporter le détective privé engagé par Jacques Vergès, un certain Roger-Marc Moreau, des éléments, des nouvelles pistes. Et au bout du compte, une requête rejetée par la Cour de cassation en mars 1995.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. En déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Vois-tu qu'il va neiger, me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets.
Sensible sur France Inter, aujourd'hui l'affaire Omar Radad. Après plusieurs mois de négociations entre Paris et Rabat et devant l'insistance du roi Hassan II du Maroc, le 10 mai 1996, le président Chirac accorde une grâce partielle à Omar Radad, réduisant sa peine de 4 ans et 8 mois. Un accord secret prévoit que dans le même temps, un prisonnier français emprisonné au Maroc rejoindra la France. Échange de bons procédés. Une mesure de clémence qui, pour l'Élysée, ne doit pas être interprétée comme une quelconque forme d'innocence. Et c'est bien le problème. Interrogé, l'écrivain Jean-Marie Roir, fervent défenseur de Omar Radad et auteur d'une contre-enquête sur le dossier, réagit, scandalisé.
C'est un compromis. Et on a l'impression que dans cette affaire, tout a été un compromis. Vous savez qu'il a été condamné à 18 ans de prison avec les circonstances atténuantes. En réalité, ces circonstances atténuantes ne voulaient rien dire, puisque ou bien il était coupable, et à ce moment-là, son crime était odieux, atroce, et il méritait le maximum de la peine, ou bien il était innocent, et à ce moment-là, il devait être acquitté. Alors, vous voyez, à chaque fois, on a été dans le compromis, dans la demi-teinte, et ce n'est pas à l'honneur de la justice. Je considère que la seule solution valable, c'était la révision du procès, c'était de casser ce procès qui n'a pas été fait dans de bonnes conditions, une instruction qui a été très négligée, et donc il fallait revenir à zéro et essayer d'ouvrir les pistes qui n'ont pas été ouvertes au moment de l'enquête, au moment de l'instruction. Il fallait essayer de faire un véritable procès. D'ailleurs, cette demi-mesure ne satisfera personne, parce que, bien sûr, elle donnera une satisfaction à Omar, mais au fond de lui-même, mettez-vous à sa place, s'il est innocent, ce que je crois, simplement la libération n'apportera pas la satisfaction profonde qu'il souhaite. C'est-à-dire, étant innocent, il souhaite que justice lui soit rendue.
Mais oui, pourquoi cette demi-mesure? Pourquoi ne pas l'avoir gracié totalement, donc normalement? Des questions aujourd'hui encore sans réponse, mais qui, à n'en pas douter, traduisent un certain embarras autour de cette affaire. Quant à Omar Radad, il peut espérer bénéficier d'une libération conditionnelle à partir de janvier 1998. Nous sommes en 1996. Pour cela, deux conditions sont requises. Avoir une adresse et une offre d'emploi concrète. En février 1998, le comité consultatif de libération conditionnelle donne un avis favorable à la libération du jardinier. Enfin, pense-t-on. Parce que place Vendôme, la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, refuse à plusieurs reprises les propositions d'emploi avancées par le jardinier pour pouvoir quitter la prison. Il faut attendre le 4 septembre 1998 pour que, après 7 ans passés derrière les barreaux et 45 jours de grève de la faim, plus une tentative de suicide, Omar Radad, qui a toujours clamé son innocence, retrouve enfin la liberté.
Bonsoir, Omar Radad est libre. À 8h ce matin, il a quitté la prison de Muret, près de Toulouse.
France Inter.
Il y avait beaucoup de journalistes ce matin devant la prison de Muret, près de Toulouse. Beaucoup de photographes, beaucoup de micros, beaucoup de caméras pour accueillir Omar Radad, le jardinier condamné à 18 ans de prison et qui est sorti ce matin, donc après 7 années de réclusion, bénéficiant d'une grâce partielle et d'une libération conditionnelle. À peine sorti dans la bousculade provoquée par les journalistes, Omar Radad a dit « Je suis innocent et je veux que la justice le reconnaisse ».
Et c'est au micro de la reporter Marie-Christine Loriol de France Inter qu'Omar Radad livre ses premiers mots.
Je suis innocent. Dans ma tête, je suis libre. Je ne suis pas innocent pour la justice, mais pour moi, je suis innocent. Pour mes enfants, je suis innocent. Pour ma famille aussi. Pour beaucoup de Français aussi, il ne faut pas oublier. Ça fait 7 ans et 2 mois, j'attends la journée là, mais c'est vrai, jamais j'ai pensé que je vais faire 7 ans de prison pour rien. Moi, des fois, ça m'est arrivé pleurer, ça m'est arrivé rigoler, parce que je dis, c'est quoi ça? C'est pas Omar, il faut la justice, il trouve le vrai coupable, il faut nous parler de vrai coupable. Bien sûr, j'attends de la vérité. Il faut la justice et connaître ses erreurs. Je continue le combat avec la justice pour moi, encore une fois, pour ma famille, parce qu'il ne faut pas oublier des choses pareilles, parce que c'est quelque chose, je pense, c'est très très grave pour la justice française. Pourquoi on cache le coupable? Ça sert à quoi?
Omar Radad, enfin libre, commence alors un long chemin pour la réhabilitation.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Notre invitée aujourd'hui, que nous retrouverons dans quelques minutes, Sylvie Novakovic, l'avocate de Omar Radad. Le 27 janvier 1999, Jacques Vergès dépose une requête en révision. En effet, le détective privé qu'il a engagé a retrouvé un manœuvre tunisien dont le témoignage n'a pas été retenu par les enquêteurs et qui signale pourtant la présence au domicile de la victime d'une femme blonde. Ces investigations auraient également permis d'orienter les soupçons vers le fils de la victime. De son côté, maître Henri Leclerc, l'avocat de la partie civile, dénonce, je le cite, des accusations qui pour lui sont absolument insupportables. Le 2 février 2000, la commission de révision des condamnations pénales ordonne une nouvelle expertise graphologique et 2 nouveaux experts sont nommés. 6 mois plus tard, dans un rapport de 150 pages, les experts en écriture estiment que l'inscription « Omar m'a tué » pourrait ne pas avoir été écrite par la victime. pour maître Jacques Vergès, qui demande toujours la révision du procès. Ce nouvel élément disculpe son client.
L'élément essentiel, je dirais même unique, contre Omar Haddad était l'inscription « Omar m'a tué ». Il n'y a pas de témoins, on n'a pas trouvé de gens qui disent qu'on a vu Omar Haddad dans la maison. Il n'y a pas de sang sur lui, on n'a pas retrouvé chez lui des objets volés, rien. Il n'y a rien de concret, entre guillemets, sauf cette inscription dont deux graphologues ont dit au cours de l'instruction qu'elles étaient d'écriture de Mme Marchal. La commission de révision a ordonné une expertise confiée à deux experts près de la Cour de cassation. Et ces deux experts, après 6 mois d'études, tout cela aboutit à la conclusion « On ne peut plus dire que Mme Marchal est l'auteur de l'inscription. »
Et cela disculpe pratiquement votre client.
C'était la seule chose qu'il y avait contre lui.
Est-ce qu'on est sûr que ça soit du sang, cette
Alors, j'avais demandé, qu'on examine pour voir si c'était du sang et si c'était le sang de Mme Marchal. Il apparaît que c'est le sang de Mme Marchal, effectivement.
Dans les mois qui suivent, la défense va demander une nouvelle expertise des traces sur les portes et sur le chevron de bois, objet central dans le crime. Les experts vont alors retrouver des traces d'ADN. Le 20 février, rebondissement, l'empreinte génétique prélevée sur la porte de la chaufferie, là où on avait retrouvé le corps de Guylaine Marchal, trace mêlée au sang de la victime pour écrire la fameuse phrase « Omar m'a tué » n'est pas celle d'Omar Haddad. Les analyses sont formelles, l'ADN n'est pas celui du jardinier mais d'une autre personne. Pour le détective Roger-Marc Moreau, auteur d'une contre-enquête qui a duré plus de 3 ans, ce nouvel élément indiscutable prouve l'innocence du jardinier.
C'est un élément très important. Car Omar Haddad, nous savions, ne pouvait pas en être l'auteur de cette inscription, car c'est une des faiblesses du dossier, il n'avait aucune égratignure, aucune blessure. Et nous savions pourtant que Mme Marchal s'était défendue bec et ongles. Par conséquent, elle avait quasi obligatoirement blessé son agresseur. Et donc, son agresseur a déposé de l'ADN sur la porte. Ça ne pouvait pas être Omar Haddad, évidemment, car la version de l'accusation disait bien que l'inscription avait été faite après le départ du meurtrier, alors que Mme Marchal s'était enfermée à l'intérieur de la chaufferie. Donc, ça excluait toute possibilité que son agresseur ait pu déposer, finalement, de l'ADN sur l'inscription. Sauf s'il s'agissait d'une mise en scène. Et qui finalement, l'auteur d'inscription n'ait pas été Mme Marchal, mais bel et bien le meurtrier lui-même.
La commission de révision des condamnations pénales va alors se saisir de la demande. Or, elle est rejetée en novembre 2002 au motif que ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à lever le doute sur la culpabilité de l'accusé, tel est l'intitulé judiciaire. Omar Haddad, choqué, clame son indignation.
Cette décision, c'est une injustice. Je ne sais pas comment elle a fait la justice pour prendre une décision pareille. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas aujourd'hui? Parce que la justice s'arrêtait là pour moi. Ça commence par moi et s'arrête sur moi. On ne demande jamais à les autres. C'est un choc, mais encore une fois, le combat est continué. Jusqu'au bout, toute ma vie, je combats toute ma vie. La prochaine étape, c'est la Cour européenne.
De son côté, son avocat, Jacques Vergès, parle d'une vérité que, selon lui, on veut cacher.
Dans cette affaire, la vérité ne sera pas étouffée, même si elle dérange des gens haut placés. La vérité se fera jour, même si elle se fait jour pour un petit jardinier, contre des gens de la haute société, protégés par des milieux extrêmement influents. Ce que je reproche à la justice en France en général, dans ce domaine, c'est d'aller vite à la vague que je te pousse. Il y a des éléments que l'avocat général devant la commission de révision a signalé, des faits nouveaux. Il y a dans 2 taches du sang de Mme Marchal, 2 ADN d'hommes, et ces 2 ADN d'hommes sont différents, et ce ne sont pas ceux d'Omar Haddad. Et on me dit, circuler, il n'y a rien à faire. Je laisse chacun en face de sa conscience, mais moi je continuerai le combat et je le remporterai. Là-dessus, je ne céderai pas, malgré les souhaits que certains peuvent nourrir.
Depuis, l'affaire stagne. L'avocate de Marada, notre invitée, maître Sylvie Novakovic, a entamé de nouvelles démarches en 2011 pour que le parquet de Grasse fasse de nouveau expertiser les traces d'ADN retrouvées sur la porte. Ce à quoi les magistrats lui ont répondu que les prélèvements avaient déjà été utilisés dans le cadre de la procédure et qu'il faut dès lors attendre l'autorisation de la chancellerie pour que de nouveaux tests soient effectués. Voilà. Depuis, la demande lancée par maître Novakovic est restée sans réponse. Affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Omar Radad, notre invité Sylvie Noakovic, l'avocate d'Omar Radad. Bonjour.
Bonjour, Paris.
Alors depuis 2001, comme on l'a rappelé, l'affaire a connu de nombreux rebondissements. D'une part, de nouveaux résultats d'expertise graphologique qui affirment que Ghislaine Marchal n'est peut-être pas l'auteur de l'inscription en lettres de sang. Et d'autre part, le fait que l'ADN retrouvé sur les portes ne correspond pas au profil génétique d'Omar Radad. À la vue de ces deux éléments majeurs qui disculpent en toute logique Omar Radad, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la tenue d'un procès en révision pour lequel vous vous battez ?
Alors effectivement, je combats en fait depuis 2008, date de ma saisine, parce que il s'avère que j'ai été ulcérée lorsque j'ai pris connaissance de dossier par ces évidences qui auraient dû effectivement obtenir la révision en cour d'assises. Il aurait dû être rejugé. Il s'avère qu'il n'a pas été rejugé. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que on s'est aperçu que l'ADN n'était pas celui d'Omar Radad. L'ADN mélangé au sang de la victime, ce n'est pas un des postillons d'un journaliste comme certains ont pu le dire, c'est vraiment un ADN mélangé au sang de la victime. Donc il s'agissait bien d'un ADN, pardonnez-moi, masculin, mais pas celui d'Omar Radad, car il s'est prêté au jeu, si je puis dire, il a accepté que son ADN soit comparé.
Donc thèse qui nous amène à penser que quelqu'un d'autre que Omar Radad a tué Ghislaine Marchal et a voulu faire porter le chapeau à Omar Radad.
Exactement.
C'est un complot, quoi.
C'est exactement ce qu'on peut en déduire. Mm-hmm. Et il s'avère que cette thèse n'a pas été suivie par la cour de révision, ce qui est bien dommage. Alors, il s'avère également que M. Moreau, que vous avez cité tout à l'heure,
avait
donné dans son rapport, avait donné des pistes sur des éventuels suspects. Donc, il aurait simplement fallu que la cour de révision, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait à l'époque, que la cour de révision compare ces ADN retrouvés au fichier national des empreintes génétiques. Parce que sur ce fichier, vous savez que sont inscrits tous les criminels, toutes les personnes qui ont déjà été condamnées. Or, dans les suspects visés par M. Moreau, il y avait des gens qui étaient déjà fichés. Ça ne coûtait rien, ça n'a pas été fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, en 2008, ce fut mon combat auprès du garde des Sceaux. J'ai été reçue à deux reprises. Et ma thèse a été suivie. Ils ont accepté de comparer ces ADN, donc d'origine masculine, avec effectivement le FNAG, le fichier national des empreintes génétiques. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'on m'a répondu que finalement, le laboratoire scientifique a effectué ses analyses, mais il n'y avait pas assez de matière. Donc j'ai alors indiqué, mais alors c'est logique, allez chercher de la matière. Les portes et le chevron sont actuellement sous scellés, il suffit simplement de les reprendre et de reprendre de la matière. Eh bien, on m'a répondu à ce moment-là, en 2010, dans ces conditions, saisissez monsieur le procureur de la République et vous lui poserez la question, vous lui demanderez l'autorisation de retirer ses portes et ce chevron. J'ai effectué cette demande en espérant que ce soit le garde des Sceaux qui le fasse, ça n'a pas été fait, donc j'ai écrit au procureur de la République, j'ai demandé effectivement ce retrait de matière qui sont sur la porte et le chevron, et j'ai reçu, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, une fin de non-recevoir. Oui.
On va continuer cette discussion importante, cette interview sur ce point important, mais on va écouter ensemble l'avis de Maître Kiejman, avocat de la partie civile. Alors lui, il affirme, bon, il est dans son rôle, mais enfin, il affirme que les nouvelles expertises ne valent rien et que dans ce dossier, il y a des faits graves qui ont justifié la décision de justice de 1994, le fait d'incarcérer et de condamner Omar Radad. Et il le dit face aux caméras à la sortie de la cour de cassation, c'était en octobre 2002. On l'écoute ensemble et on en reparle après.
C'est la première fois depuis longtemps qu'il y a un débat contradictoire devant des juges. C'est-à-dire un débat au cours duquel on ne peut pas affirmer n'importe quoi sans prendre le risque d'être contredit. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est rapproché de la vérité du dossier, qu'il ne sera plus possible de dire que l'enquête avait été bâclée, qu'il ne sera plus possible de dire qu'il n'existait pas de charge contre M. Maradona.
Bon, alors Maître Kiejman est dans son rôle, avocat de la partie civile censée défendre la victime et les proches de la victime. Mais on sait bien que la justice ne veut pas revenir sur la chose jugée en règle générale parce que c'est un désaveu pour elle et on sait à quel point elle est arc-boutée sur ses décisions. D'où la difficulté de votre combat et du combat d'autres avocats dans d'autres affaires.
Alors, effectivement, je mène un combat depuis plus de 25 ans assez difficile, mais je suis quand même très heureuse d'avoir été contacté à l'automne dernier par l'Assemblée nationale, la Commission des lois, parce que la question justement de cette loi, de cette fameuse révision, la question de cette révision qui n'est pas possible, a été revue et corrigée.
En juin 2014, pardon.
Exactement, le 21 juin 2014, parce qu'on m'avait demandé, il y avait Badinter bien sûr et bien d'autres, aux magistrats à la Cour de cassation aussi qui ont été entendus, et nous avons tous donné notre avis concernant cette ancienne loi qui ne nous permettait pas effectivement de réviser les procès. On sait qu'il n'y avait eu effectivement que 8 procès révisés depuis 1945, vous vous rendez compte, c'est impossible de réviser un procès. Alors, je suis très contente parce que cette loi du 20 juin 2014, quand même, essayer de simplifier les choses en expliquant que normalement, le doute, en cas de doute, c'est en cas d'éléments nouveaux, eh bien, on peut demander la révision d'un procès. Mais ça a toujours été, vous allez me dire, oui, effectivement, article 124,
ça
a toujours
précisé. Ça, on peut demander, oui.
Oui, sauf que la nouvelle loi précise les choses. Précise, alors c'était tout un débat sur le doute, est-ce qu'on parle de simple doute, etc. Et finalement, la Cour de cassation a dit, bon, on va parler, le Conseil constitutionnel, on a parlé de doute. Bon, on continue à parler de doute, mais on n'en fait qu'une seule phrase désormais. Donc désormais, en cas de doute, on peut toujours saisir la commission de révision. Et maintenant, c'est même plus la commission de révision, c'est la Cour de révision. On n'a plus qu'une seule Cour. Avant, on avait une commission de révision, ensuite une Cour de révision. Maintenant, il y a la seule Cour de révision qui mène effectivement à la fois des mesures d'investigation et en même temps rend une décision.
Vous me dites, si je me trompe, mais du temps de l'affaire Omar Haddad, on était en cour d'assises, donc on ne pouvait pas faire appel sur le fond. On ne pouvait aller que devant la Cour de cassation pour des problèmes de forme.
Oui.
Aujourd'hui, donc il y a ce recours-là. Il y a en assises, on peut faire appel sur le fond. Et si ça ne marche pas, effectivement, si on pense qu'il y a un doute, il faut faire en sorte que les procédures en révision soient plus faciles, en tout cas moins difficiles. L'intime conviction, ça, voilà un autre problème. Voilà un homme qui est jugé, puisqu'il n'y a pas de preuve, sur ce qu'on appelle l'intime conviction. Est-ce qu'un droit français, démocratique, peut garder cet arsenal de l'intime conviction?
Oui, c'est tout à fait dramatique, cette fameuse intime conviction. Néanmoins, c'est vrai que pour nous, avocats pénalistes, c'est toujours très agréable de pouvoir essayer de convaincre les jurés. Ça, j'avoue, c'est un peu... Oui, on peut dire ça aussi. C'est que pour
c'est vrai.
D'un point de vue exercice, c'est vrai que c'est passionnant. Mais par contre, d'un point de vue, je dirais, équité, c'est dramatique. Parce que Omar Haddad, qui n'a d'ailleurs pas bénéficié de l'appel, c'est la loi du 15 juin 2000 qui permet effectivement désormais
à
toute personne de former
appel. Avant, on ne pouvait pas.
Tout à fait, on ne pouvait pas, il n'en a pas bénéficié, vous avez tout à fait raison. Et c'était l'intime conviction des jurés. Quelle fut cette intime conviction? On ne sait pas. Il était condamné à 18 ans. Si vraiment il était considéré comme coupable, il aurait dû prendre 30 ans. Or, il a pris 18 ans. Pourquoi 18 ans? Pourquoi pas l'acquittement? C'est le problème du bénéfice du doute. On devrait normalement bénéficier du doute. On devrait être acquitté lorsqu'il y a un doute, c'est le principe inquisitoire de la loi française, mais ce principe inquisitoire n'est pas appliqué. Malheureusement, quand on veut obtenir un acquittement, il faut véritablement convaincre les jurés qu'ils aient la certitude de l'innocence de la personne. S'ils ne sont pas certains de l'innocence, eh bien il n'y a pas d'acquittement. C'est ça qu'il faut savoir.
Question difficile, est-ce que vous pensez que la condition d'immigré marocain a joué ouvertement contre Omar Haddad? Est-ce qu'il y a eu cette dimension-là?
Je ne pense pas. Bon. Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que c'était par rapport à tous les éléments. Je dis que je ne pense pas parce que je défends d'autres dossiers, comme l'affaire Maillan, par exemple, où c'est des dossiers où ce ne sont pas des personnes d'origine marocaine ni quoi que ce soit. C'est un Français pour lequel je me bats. Et je retrouve les mêmes similitudes que dans le dossier Omar Haddad. C'est simplement le refus de la justice de revenir sur des postulats. Il y avait un postulat au départ. Monsieur Omar Haddad était le coupable idéal et on a décidé de ne pas contrarier ce postulat. C'est tout. Et tout a été fait pour contredire les preuves irréfutables de son innocence.
Alors, que dire maintenant de cette grâce présidentielle? Qu'est-ce que c'est que ce compromis? Effectivement, je ne sais pas qui protestait contre le compromis, qui est pas loin de la compromission. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On est gracié parce qu'on considère qu'on était mal jugé ou on n'est pas gracié. Enfin, on ne peut pas être entre les deux.
Je suis complètement d'accord. Et là, je partage aussi l'avis de Jean-Marie Roire, que vous avez.
Ah, c'est Jean-Marie Roire.
Voilà, dans vos archives, effectivement, vous avez évoqué cela. Et je suis tout à fait d'accord, entièrement d'accord sur le fait que c'est inadmissible. C'est ou une grâce présidentielle totale ou voilà ou pas partielle. À quoi ça sert partielle? Parce qu'il est sorti plusieurs années plus tard. Donc ça n'a absolument aucun intérêt.
C'est un deal diplomatique.
C'est une espèce de
sur
deal.
Sur le dos d'un homme.
Oui, sur le dos d'un homme, sachant qu'une fois de plus, pour Omar Haddad, il le dit encore, lui, ce qu'il veut, c'est être blanchi. C'était pas de sortir, c'était d'être blanchi. C'est tout ce qu'il souhaite. Vous savez, aujourd'hui, il est dans une situation absolument dramatique parce qu'il est vraiment aux abois. Il attend cette révision. Il attend ce nouveau procès. Et c'est pour ça que, parce que je parlais de la loi tout à l'heure du 20 juin 2014, qui nous permet maintenant en amont de saisir le procureur de la République, parce que j'ai pas fini mon épisode concernant le procureur, c'est que suite à cette nouvelle loi, je peux enfin saisir le procureur sur son avis, si je puis dire. C'est qu'en fait, il a 2 mois pour se prononcer, et puis il a intérêt à se prononcer, parce que s'il se prononce pas, j'irai devant le procureur général. Parce qu'il faut savoir que maintenant, il doit le faire. Donc je suis très contente que cette loi intervienne, très contente de cette loi du 21 juin 2014, et la promulgation, c'était le 1er octobre 2014, croyez-moi, le courrier est parti le jour même, hein. Je ne me suis pas gênée et j'attends sa réponse. La réponse, c'est début décembre 2014.
Voilà, cette voix qui se bat, que vous entendez si vous mettez France Inter juste maintenant, c'est celle de Sylvie Novakovic, l'avocate d'Omar Haddad. En 1991, à l'époque des faits, on écoutait, entre autres, Alain Bachoum, on écoutait Osez Joséphine.
On devine les monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils vont des petits, ils vont des envieux. Dauphine, je suis le roi de ce drap à qui sourit la vie. Marche sur l'eau, évite les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez les uriers, soyez ma muse. Que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Mais rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, 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 osez Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie.
Bachung, Osez Joséphine, 1991, l'année où a été tué Ghislaine Maréchal. Nous parlons donc de l'affaire Omar Haddad avec son avocate d'aujourd'hui, Sylvine Novakovic. Alors vous avez apporté le dossier, un dossier. Alors c'est assez saisissant d'en voir le côté officiel et même le langage judiciaire. Hein. Donc rapport de la directrice du laboratoire de police scientifique de Paris, expert près la cour d'appel de Paris, justement à propos de ces traces ADN. Je lis l'extrait. Les analyses génétiques effectuées à partir du prélèvement 1A réalisé sur la porte de la chaufferie objet du scellé 11 montrent un mélange d'au moins 2 ADN, dont au moins un d'origine masculine. Les caractéristiques génétiques qui diffèrent de celles de Madame Marshall Guilen, née de Ranty, sont les suivantes. Et là, ce sont des chiffres un peu incompréhensibles, donc je ne transmettrai pas. Mais voilà, donc ces prélèvements ADN dont vous parliez tout à l'heure, qui est vraiment une pièce pour la révision du
et qui plaît dans la faveur de l'innocence de Monsieur Omar Haddad.
Alors, doit-on parler d'erreur judiciaire, de complot ? Enfin, ça ressemble à un complot, mais on ne peut pas dire complot, évidemment. Bon, erreur judiciaire. Les erreurs judiciaires se fomentent précisément au début, lors des gardes à vue, au début des enquêtes. C'est là le moment un peu dangereux,
le moment sensible. Tout à fait le moment. C'est pour ça que tout est débattu. Que maintenant, l'avocat peut assister une personne en garde à vue dès la première heure. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail quand même du législateur pour aller vers la vérité judiciaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires qui partent effectivement du début. On voit que vous êtes expérimenté, parce que oui, ça commence comme ça, et puis une fois qu'on a visé un coupable, après c'est terminé, la personne a beau se débattre, dire qu'elle est innocente, après c'est un vrai travail de titan.
Alors, est-ce qu'il faudrait une juridiction collégiale des magistrats du siège, donc pas un juge d'instruction, mais plusieurs, vous êtes favorable à ça ?
Oui,
On en a parlé beaucoup de cette réforme-là.
Tout à fait. D'ailleurs, ça commence. Certains juges, des fois, travaillent à deux sur des dossiers. Mais oui, bien sûr, je suis tout à fait favorable à la multiplication de toutes les méthodes qui pourraient faire en sorte que les personnes soient innocentées. Parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait deux juges, tant mieux. Vous avez des juges qui sont merveilleux, qui travaillent merveilleusement bien. Vous en avez d'autres qui sont butés, il faut le dire. Voilà. Dans ces cas-là, c'est terrible parce qu'on passe son temps. Heureusement, on a des recours. Il y a quand même de la chambre de l'instruction. On a des chambres d'instruction courageuses, des fois, qui acceptent effectivement dans nos demandes d'actes d'aller à l'encontre du juge d'instruction. Oui, il y a des mesures, il y a des réformes qui sont intervenues. On a des moyens d'agir, nous les avocats, heureusement.
Vous pensez qu'il y a s'il y a eu erreur judiciaire, il y a eu une pression sociale à Mougins, la victime manifestement était une notable, était connue, il y a un jardinier qui pèse moins socialement. Est-ce que les enquêteurs ont pu être influencés par ce contexte social? Parce qu'on se demande pourquoi, là, à ce moment-là, tant d'acharnement.
Moi, je dirais que c'est coupable facile. Vous avez Omar Mathieu, vous avez une écriture, vous avez des éléments. Comme ça, on peut clôturer l'enquête. Vous savez, une affaire qui traîne pendant des années, ça ne plaît pas.
Ouais,
donc,
ça.
Plus vite on peut clôturer l'enquête, mieux on se porte. Je pense que c'est plus basique que ça, c'est vraiment très simple.
Alors, on l'a vu, l'affaire du meurtre de Guylaine Marshall, c'est une succession de doutes, sur l'alibi, sur l'épreuve, doutes sur voilà. Il y a que des doutes et c'est bien le problème. Moi, je propose d'écouter notre confrère de France Inter, Mathieu Aron, un vrai spécialiste, lui, de la chose judiciaire. Il a assisté à l'ensemble des audiences et il a confié son sentiment quelques années plus tard, face à la caméra de Christophe Ondelat dans l'émission Fait entrer l'accusé.
Si moi j'avais à répondre à toutes les questions qu'on leur pose, qu'est-ce que je répondrais? Moi, j'avais encore un doute, et j'ai toujours un doute, donc je n'aurais pas condamné.
Au nom du doute?
Au nom du doute. Et au nom d'un doute raisonnable. Mais je me disais, vu la manière dont ce procès a été construit, vu ces portes qui sont là, vu le fait que Maître Vergès n'avait pas du tout développé la thèse que Madame Marshall puisse être trompée de personne, moi, je pensais qu'ils allaient condamner.
Voilà. Alors, vous êtes l'avocate d'Omar Haddad, donc je vais me permettre de vous demander, Sylvie Novakovic, comment va Omar Haddad aujourd'hui? Quel homme est-il? Alors, forcément, un homme blessé, un homme impatient d'être réhabilité. Il ne veut pas vivre avec ce fardeau du coupable qu'on a gracié. Oh, vous êtes gracié, mais vous êtes encore coupable. S'il ne l'est pas, ça doit être une douleur. Comment va-t-il aujourd'hui?
Mais écoutez, vous avez parfaitement répondu. Il est dans cet état, toujours. C'est-à-dire qu'en fait, complètement déprimé. Aujourd'hui, il ne peut pas travailler parce qu'il attend toujours sa réhabilitation. Il est incapable de travailler, même incapable d'affronter les journalistes, même incapable de se rendre quelque part pour essayer de communiquer. Il attend. Il émet beaucoup d'espoir dans mes actions. Et c'est vrai que grâce à cette nouvelle loi, j'espère bien que monsieur le procureur de la République va faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'en fait, reprendre de la matière pour qu'on puisse comparer cet ADN, qu'on puisse comparer cela avec celui qu'on a retrouvé mélangé au sang de la victime, avec le FNAG, avec le fichier national des empreintes génétiques. Et lorsqu'on aura pu comparer cela, eh bien, on aura la vérité. Je suis persuadée que ce coupable se trouve dans le fichier. Et on va savoir qui est le vrai coupable. Et on va enfin pouvoir innocenter monsieur Omar Haddad. Donc c'est vraiment un appel aujourd'hui à monsieur le procureur de la République pour qu'il puisse me répondre très vite, car j'attends avec impatience sa réponse.
Et Omar Haddad, alors Omar Haddad a une avocate, c'est vous, vous battez, vous portez sa parole avec avec efficacité, c'est votre métier. Mais lui, il a vraiment pas envie de temps en temps de s'exprimer comme une thérapie par la parole, dire les choses, ça peut soulager.
Ça fait 20 ans qu'il se bat depuis la décision de la cour d'assises, ça fait 20 ans qu'il pleure, ça fait 20 ans qu'il est effectivement dans cet espoir, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est comme meurtri, si vous voulez, comme meurtri régulièrement, il va voir sa famille au Maroc, il reste aussi en France souvent, il attend, il est vraiment en position d'attente, je ne veux pas dire autrement, et c'est la raison pour laquelle c'est très triste, et je suis très motivée pour l'aider, très motivée pour le faire réhabiliter, et je pense que si vous le voyez demain, vous serez aussi persuadé que moi, que cet homme est innocent, parce que s'il était coupable, croyez-moi, il vivrait normalement, il aura un métier, hein, il pourrait vivre correctement, il ne vit pas parce qu'il veut être réhabilité, il crie son innocence encore aujourd'hui, de manière très forte, et ce que j'ai entendu tout à l'heure, eh bien, ce sont les mêmes propos qu'il tient quand je l'ai au téléphone.
Toute dernière chose, parmi les documents que vous avez apportés, on voit les scellés, la façon dont ils ont été protégés,
oui.
Contrairement à ce qu'on a dit. On a 30 secondes, vous pouvez nous redire. Alors, on voit donc la porte, voit des protections, alors je ne sais pas dans quelle matière.
Papier, tout à fait, alors une espèce de papier, bulle, vous voyez. En fait, certains détracteurs disaient, mais oui, de toute façon, ça peut être finalement des potions de journalistes. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir si cette origine masculine ne serait pas des journalistes.
Et en fait, les photos que vous montrez prouvent le contraire.
Les photos que je vous montre, c'est pour ça que je voulais vous les montrer, prouve avec éclat que ça n'est pas possible. Il y a une protection telle qu'il n'est pas possible que ce soit effectivement mélangé. Enfin, en plus, c'était mélangé, donc c'est pas par-dessus, c'est mélangé au sein de la victime. Donc ça ne peut pas être celui de journaliste, mais c'est celui du vrai coupable.
Voilà, et je confirme, parce qu'à la radio, on ne voit pas, par définition, je confirme effectivement ce que vous dites. Merci beaucoup, Sylvie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Merci, à bientôt, au revoir.